Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Eli Lemel, bonjour, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Rav Eli Lemel, on avance dans le survol de notre paracha comme chaque semaine et donc on arrive maintenant à Tetzavé. Et on le sait, les parachiotes dans notre Torah vont toujours, plus ou moins, sont toujours liées à la fête du moment, on est aussi à Pourim. Et Rav Eli Lemel, vous voulez intervenir sur un sujet qui est à la fois très d'actualité et très profond, c'est ce qu'on pourrait appeler le sens politique. Par exemple, en analysant l'attitude de Mordechai, qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet, Rav Eli Lemel ?
Oui, tout à fait, Bernard. On va voir en effet Mordechai avec une démarche politique. Allez, on va reprendre un petit peu toute l'histoire, comme ça, ça sera plus simple. Donc on est dans la Megillat Esther, on est dans ce texte dans lequel on nous relate ces événements qui vont avoir lieu. On est entre 4 à 5 siècles avant notre ère. On est à un moment dans lequel il y a une tentative de reconstruction du temple qui a été bloquée par les Samaritains qui ont faussement accusé les Juifs, à qui on avait permis de repartir en Israël, de le reconstruire. On a Mordechai qui est là, membre du Sanhédrin, membre de ce grand tribunal. Et donc nous nous retrouvons face à une situation qui est très classique, celle tout simplement d'un peuple, qui est le peuple juif, qui est en exil, avec un roi qui s'appelle Assuérus et qui, somme toute, ne semble pas être ce qu'on appellerait aujourd'hui antisémite et qui décide de faire un grand festin pour, allez, on dirait dans notre langage actuel, travailler sur la notion de communauté nationale. Et il le fait de manière très intelligente, d'ailleurs, puisqu'il va proposer à tous les juifs de son, enfin pas tous les juifs, aux représentants bien sûr de participer à ce festin, comme les représentants des autres ethnies, on va dire. Et ce festin sera cachère, mais Mordechai, justement, demande à ce qu'on n'y aille pas. Et ce pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il sait que vont être exposés les ustensiles du temple, et Mordechai, ne veut pas qu'à travers notre présence, on valide un petit peu le fait que, ben, ça y est, le temple, c'est terminé. On est là, on les expose, ça y est, c'est d'histoire ancienne. Et surtout parce que Mordechai sait que dans un festin qui va durer des dizaines de jours, eh bien, il y aura sûrement des dérapages, ça ne sera pas juste une ripaille, il y aura sans doute une suite qui va tourner sans doute à l'orgie, et Mordechai considère qu'il ne faut pas prendre ce risque, évidemment, et donc demande à ce qu'on n'y aille pas. Bien sûr, on ne l'écoutera pas, et beaucoup de Juifs viendront participer à ce festin. Et suite à cela, bien sûr, Mordechai semble aussi être totalement dénué de sens politique, puisque lorsque Achashverosh va nommer son nouveau grand vizir, ce premier ministre, Haman, ennemi des Juifs, eh bien Mordechai va être dans la provocation, rappelons-nous. Haman ne veut pas que l'on se prosterne devant lui. Et veut, pardonnez-moi, je suis désolé, c'est exactement le contraire. Haman veut que l'on se prosterne devant lui, et Mordechai ne veut pas se prosterner devant lui. Et Mordechai, bien sûr, au lieu d'éviter Haman, le rencontre, le voit, et lui montre bien qu'il ne se prosternera pas devant lui. Vous pouvez bien vous imaginer qu'au niveau politique, c'est peut-être pas très intelligent de sa part, d'être dans cette forme presque de provocation, on aurait dit aujourd'hui. Et lorsque l'on va voir par la suite, eh bien, malheureusement, ce que Haman va décider, on comprendra ô combien Mordechai semblait avoir tort, puisque, a priori, c'est sans doute son attitude, qui n'est absolument pas une attitude d'un homme politiquement responsable, qui aurait pu générer ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ce décret que Haman va mettre en place pour le génocide. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, a priori, il est dénué totalement de sens politique. Et ce qui est très curieux, c'est que quand à un moment, on va le retrouver à la fin de l'histoire, comme étant un héros, puisque il est celui quand même qui va nous sauver avec Esther, on va le nommer Premier ministre, et là, eh bien, il va au fond décider d'y rester. Alors, politique, pas politique, que se passe-t-il ? Pour mieux comprendre cela, je voudrais partager avec vous un enseignement que j'ai entendu au nom du Rabbi Lubavitch, que je trouve très très intéressant et qui va créer peut-être un éclairage différent. Au début de la Megillah, lorsque l'on nous relate donc l'histoire, on nous dit « Vayehi bimei Achashverosh hu Achashverosh amolech meodu vatkush ». Traduction, ce fut au temps d'Assuérus, ce même Assuérus qui régnait de Hodou jusqu'à Kouch, et on nous explique après qu'il y a 127 provinces, et puis l'histoire commence. Et nos maîtres, et entre autres Rashi, s'interrogent bien sûr sur cette construction très curieuse du premier verset. Ce fut à l'époque d'Assuérus. Oui, c'est bien lui, Assuérus, ce roi qui... Mais tu n'avais qu'à dire plus simplement. Ce fut à l'époque d'Assuérus qui régnait sur telle et telle province. Et redondance des termes. Hu Achashverosh, c'est Achashverosh. Et Rashi sur place nous dit, oui, bien sûr, s'il y a répétition des termes, c'est pour nous préciser quelque chose. Hu Achashverosh, c'est bien Achashverosh. Traduction, Omed Berish O, celui qui restera toujours dans son dysfonctionnement par rapport au peuple juif du début jusqu'à la fin. Traduit d'une manière différente, même au moment où il permettra au peuple d'Israël d'échapper à la tentative de génocide de Haman, il est toujours dans ce qu'on appellerait aujourd'hui son antisémitisme primaire. Ok. Et donc nous allons partir, si vous le voulez bien, vers la fin du texte, vers le dernier verset. Et dans ce dernier verset, dans lequel on célèbre en effet, eh bien ça y est, la victoire, on nous dit « Ki Mordechai Yehudi ». Car Mordechai, le juif, Mishne la Melech Achashverosh, eh bien, était le second du roi Assuérus, Gadol Ayodim, il était grand aux yeux des juifs, Vratsoui le Rovechav, et agréé par la majorité de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et défendait la cause de toute la descendance. Extraordinaire. Très curieux. Agréé par la majorité de ses frères. C'est quoi cette histoire ? Mordechai vient de nous sauver. Et pourtant, on est en train de dire que ce n'est que la majorité du peuple juif qui l'agrée, qui le valide. Mais pourquoi ? Eh bien, nos maîtres de dire qu'en effet, Mordechai est resté à son poste et quelques membres du Sanhédrin du Grand Tribunal ne le comprennent pas. Ils lui disent « Ça y est, tu as rempli ta mission, c'est extraordinaire, mais reviens à la maison d'études. Ça y est, reviens maintenant et quitte ce poste politique. » Et Mordechai ne le fait pas. Pourquoi ? Alors, première lecture, bien sûr, certains diront parce que le poste lui plaît. Mais Mordechai n'est pas intéressé par la politique. Seulement, le premier verset va nous éclairer. Mordechai sait très très bien que, au fond, Achashverosh Assuérus, même si en effet, leur a permis d'être sauvé de cette tentative de génocide, au plus profond de lui-même, reste potentiellement un ennemi des Juifs. Et donc, Mordechai va rester à son poste pour faire de la prévention, on aurait dit aujourd'hui. Quelque part, il assume une responsabilité qu'il ne désire pas, mais il n'a pas le choix. Mordechai, évidemment, préférait ô combien mettre de côté ce poste et repartir vers sa fonction première au Sanhédrin. Mais le sentiment de responsabilité qui l'anime le pousse à rester et assumer cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que une partie du Sanhédrin n'arrive pas à le percevoir, n'arrive pas à le comprendre. On va essayer de réfléchir à cela. Et pour cela, rappelons-nous que les maîtres de la tradition mystique nous apprennent que chaque fête juive est symbolisée par un des membres du corps. Et la fête de Pourim est symbolisée par le nez, l'odorat. Pourquoi ? Eh bien, les deux personnages principaux de notre sauvetage sont Mordechai et Esther. Esther et Mordechai. Or, Esther est appelée aussi Hadassah. Hadassah, ça veut dire le myrte. La myrte, c'est une plante odoriférante. Et Mordechai, quand les maîtres du Talmud dans le traité de Megillah nous disent « Fait-on allusion à Mordechai dans la Torah, dans les cinq livres de la Bible, dans les cinq livres de la Torah ?» Eh bien, on nous dit oui, lorsque l'on parle aussi des encens. Puisque dans la composition des encens, il y avait un arôme que l'on appelait Mordoror. Et Mordoror est traduit en araméen par le Targum Mardachia. Maradachia, ce que l'on peut lire Mordechai. Donc, de manière allusive, eh bien, le nom de Mordechai se trouve à travers un terme qui nous renvoie à l'idée de l'odorat. Mais c'est quoi l'odorat ? Eh bien, c'est la capacité que l'on a de percevoir une chose même si elle n'est pas visible. Regardez, si dans une pièce vous faites brûler un bâtonnet d'encens et puis qu'après vous l'enlevez, eh bien, la personne qui va pénétrer va néanmoins ressentir cette odeur, pourtant il n'y a plus rien de visible. Mordechai et Esther ont tous les deux cette capacité de ressentir, de sentir les choses. Mordechai ne regarde pas juste la réalité concrète. Oui, c'est vrai, Achashverosh, ça y est, il m'a donné la place, c'est bon, il va nous aimer, vous allez voir. Pas du tout. Mordechai, Esther, eh bien, comme on dirait aujourd'hui en français, on ne le sent pas véritablement. Il y a des mots. Mais à la base, il y a quand même quelqu'un qui n'avait aucun scrupule à nous livrer à Aman. Alors, là, véritablement, Mordechai montre son sens politique. Ah, vous me direz, mais au début, justement, Mordechai a voulu dire une chose au peuple juif. Il a voulu leur dire, attention, ne vous imaginez pas qu'être présent dans les sphères du pouvoir suffit pour pouvoir assurer un futur correct. Ne l'imaginez pas. Vous prosterner devant Aman n'enlèvera en rien son désir génocidaire. Et donc, on se trouve ici dans quelque chose qu'il n'y a que les maîtres du peuple d'Israël qui peuvent percevoir. À quel moment cette démarche politique est-elle nécessaire ? Et à quel moment ne représente-t-elle pas juste une forme de prosternation face à ceux qui nous fascinent, mais qui, quelque part, ne nous amèneront sans doute pas autre chose que ce qu'ils désirent pour eux ? Voici donc quelques éléments de réflexion par rapport à Mordechai et sa dimension politique.
Rav Eli Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Rav Mordechai Bitton nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom Aleichem, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom et Mevorach. Alors c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le studio, mais encore plus parce que vous habitez à Jérusalem. Alors vous nous amenez un peu de la bracha de Jérusalem, c'est beau. Un petit peu de soleil aussi de là-bas. Mm-hmm. De cette belle ville, il fait beau en ce moment à Jérusalem.
Oui. Oui. Vous aimez le calme de la ville aussi.
Oui, ça, on va attendre un peu. Ça, on va attendre un peu. Mais d'ailleurs, on va apprendre quelque chose d'extraordinaire avec vous ce soir, c'est que les absents n'ont pas toujours tort.
Oui, si on peut résumer un petit peu la thématique unie Tetzavé et Pourim de cette manière-là. Dans Parashat Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce que dans sa plaidoirie suite à la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu va dire « Mechelina misifrecha » va dire « Hachem, efface-moi de ton livre, n'efface pas les Bnei Israël. Tu m'effaces-moi de ton livre, tu n'effaces pas les Bnei Israël. » Effectivement, cette promesse, entre guillemets, cette demande, et d'une certaine manière, cette promesse, entre guillemets, elle va se comprendre dans Parashat Tetzavé, où le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Dans la Megillah, le nom d'Hachem, on le sait, n'est pas mentionné, il apparaît en allusion. Donc on a finalement, dans la Parashat Tetzavé, un acteur qui est un acteur majeur du peuple juif, qui est un acteur majeur donc, de la construction du tabernacle et de tout ce qui se met en place autour du tabernacle, qui est absent, entre guillemets, et d'une certaine manière, cette absence, elle reflète son amour du peuple juif. Il dit à Hachem, si tu dois effacer le peuple juif, il faut m'effacer moi. Et il marque en quelque sorte son amour pour le peuple juif, son amour débordant pour le peuple juif, y compris pour ce peuple juif qui, dans une certaine partie, pour une partie d'entre eux, donc, ont fait la faute du veau d'or. C'est un amour inconditionnel. Inconditionnel. Et donc là, en quelque sorte, même s'il n'est pas dans la paracha, il dit quelque chose, il exprime quelque chose par cette absence qui est éminemment vrai. C'est que l'amour pour le peuple juif, ça doit être un amour inconditionnel. C'est très actuel d'ailleurs. D'accord, c'est un peu de ça dont il s'agit aujourd'hui. L'amour qu'on doit avoir pour le peuple juif, il est inconditionnel. L'amour que Hachem a pour son peuple, c'est un amour inconditionnel. Et ça, Moshe Rabbeinu, il l'a bien compris. C'est un prophète qui a fait des remontrances à Israël, mais quand il parle à Hachem, cette fois-ci, il dit à Hachem, regarde comme ce peuple est merveilleux. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand Hachem lui dit, je vais les détruire parce qu'ils sont amkeshé au rêve, c'est un peuple qui a la nuque raide. Moshe Rabbeinu lui dit, ne les détruis pas parce que c'est un âme caché au rêve, parce qu'ils ont la nuque raide. D'accord ? C'est-à-dire, tu sais très bien que cette qualité, c'est une qualité double face. D'un côté, effectivement, ils sont capables de faire le veau d'or, mais de l'autre côté, ils sont capables de tenir pendant 3000 ans d'histoire et finalement de tenir tête à tous les empires, à toutes les séductions, à toutes les tentatives de séduction. Donc voilà ici quelqu'un qui n'est pas là, mais qui par son absence montre que son amour pour le peuple juif est un amour inconditionnel et en fait nous montre que l'amour d'Hachem pour son peuple est inconditionnel. Dans la Megillah maintenant, Hachem n'est pas mentionné, il n'est pas là, entre guillemets, mais en fait c'est l'être le plus présent. Historia en hébreu, c'est la même lettre que Esterka, c'est-à-dire la présence divine est voilée, elle est cachée. Et l'histoire de Purim, c'est ce qu'elle nous montre. Tout s'enroule, tout s'enroule, tout se déroule, tout s'organise pour arriver à un but ultime. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Purim, c'est qu'on voit apparaître un des modes d'intervention d'Hachem dans le monde qui est le plus inexplicable, qui s'appelle la Midat Hayichud. On connaît tous, on va expliquer ce que c'est, on connaît tous cette idée du salaire et de la rétribution. La Torah en est remplie. On connaît tous le Mishpat, c'est-à-dire qu'Hachem juge. On connaît tous le Mazal. Hachem décide de mettre les gens dans un certain décor et puis de les faire rouler dans ce décor. Mais il y a une autre anaga, il y a une autre manière de se conduire d'Hachem dans le monde qui s'appelle l'anagat Hayichud. C'est que chaque individu dans le monde finira par faire la volonté d'Hachem. Par exemple, Pharaon veut se débarrasser des Juifs, il fait jeter tous les bébés au fleuve, et c'est par derrière qu'on lui amène Moshe Rabbeinu le jour où il fait jeter tous les bébés au fleuve. Aman va décider d'exterminer l'ensemble du peuple juif. Ce faisant, donc, il va agir pour que Vashti soit tuée et pour qu'il puisse faire rentrer sa fille. En agissant de la sorte, il fait rentrer Esther au palais, donc il fait rentrer celle qui va sauver le peuple juif. Aman et Pharaon, c'est les ennemis emblématiques du peuple juif, des ennemis exterminateurs. Et en fait, ils sont l'instrument de leur propre défaite. Ils sont l'instrument, en quelque sorte, de leur propre destin. Et là, on apprend quelque chose de très intéressant, c'est que Hachem, il est doublement masqué. Son nom n'apparaît pas dans la Megillah, mais en quelque sorte, sa présence n'apparaît même pas dans les méfaits de Haman. Mais les méfaits de Haman, ils vont eux-mêmes révéler la présence d'Hachem qui finalement l'utilise pour arriver à ses fins. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Donc on voit ici ces deux choses. On a ici des absents, entre guillemets. Effectivement, ils n'ont pas tort, ils ont complètement raison. Ils sont exactement là où il faut être. Et il y a ici un enseignement qui est très intéressant pour nous, c'est qu'en fait, très souvent, la résolution de nos problèmes, ou d'une certaine manière, même un peu comprendre le monde dans lequel on vit, c'est un peu comprendre cette notion d'absence. Par exemple, souvent, les gens se lancent dans des aventures parce qu'ils veulent tout contrôler. On leur dit, retire-toi, arrête de vouloir contrôler. Laisse Hachem faire. Laisse Hachem gérer son monde. Arrête de vouloir contrôler. Et lorsque les gens s'arrêtent de vouloir contrôler, ils s'arrêtent de vouloir tout prendre, c'est là que les choses se dénouent. Comme si en quelque sorte se mettre un petit peu en absence, c'est laisser plus de place à l'intervention d'Hachem. La même chose dans l'histoire du peuple juif. À tout vouloir contrôler, à tout vouloir gérer, on peut s'enferrer dans des erreurs sans fin. Alors que si à un moment donné, on dit bah finalement Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il gère son monde, Hachem, il gère son peuple, il l'emmène vers un terme, et le terme messianique, peut-être que si on le laisse faire, alors ça veut dire quoi concrètement laisser faire Hachem? C'est déjà comprendre que ce ne sont pas les hommes qui font le destin du peuple juif. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les hommes, ils font des mitzvot, ils étudient la Torah, ils font du chesed entre eux, ils font des choses qui régulent et qui organisent et qui bonifient la vie du peuple juif. Mais le terme historique de l'histoire, finalement, c'est Hachem qui le gère et qui emmène le peuple juif vers ce terme-là. Voilà, last but not least, un dernier point aussi concernant Purim. Vous savez qu'on ne lit pas le Hallel à Purim. On n'est pas le Hallel. Or, on lit le Hallel à Pessah, qui est une prière donc de remerciement à Hachem, de louange à Hachem. On le lit à Sukkot. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, la délivrance, elle a été totale, mais à Purim, la délivrance n'a pas été totale. Et les lettres de Haman ont simplement été suspendues. Et comme elles portaient le sceau du roi, donc on ne pouvait que bouger quelques mots, mais on ne pouvait pas en changer le vocabulaire. Donc elles sont toujours là. Elles sont toujours là, ces lettres, et elles sont en quelque sorte un point de lumière dans l'histoire de l'exil du peuple juif. Se rappeler que tout au long de l'histoire du peuple juif, il y a des gens qui veulent nous exterminer, mais qu'en dernier recours, la méthode pour y faire face, c'est la méthode de Haman et de Esther, qui a été de faire teshuvah, qui a été de réunir des enfants, d'étudier la Torah, finalement s'adresser directement à Hachem, pour que Hachem transforme ce qui semblait être une histoire dramatique en finalement une délivrance, ou en tout cas une pierre sur le chemin de la délivrance.
Ce que vous dites, ça marche aussi pour le travail, on connaît tous ça, nous, les hommes de notre génération, nous. Les femmes aussi, bien sûr, mais bon, on s'en parle tous les deux. Des fois, on se dit, allez, je vais rajouter une heure de plus, un coup de fil de plus. Vous dites ce que vous disiez, vous êtes lâche. Oui, il faut un keli pour recevoir la bracha, mais c'est pas vrai. C'est vendredi après-midi, il est 16h. Laisse Dieu s'occuper de ça.
C'est la mida du bitachon. C'est la mida, cette trait de caractère de la confiance en Hachem qui fait que l'individu apprend à doser son intervention dans sa propre histoire. Mais ça part du principe que l'histoire que je vis, c'est une histoire qui a été voulue par Hachem et qui est gérée par Hachem. Donc il y a un aller-retour entre ce que je fais, ce que j'entreprends, et cette conscience première qui est que je me trouve dans un cadre qui a été fixé par Hachem. Ça, c'est fondamental. On le voit dans Pourim, et on le voit, comme vous l'avez dit, dans notre vie professionnelle, même dans la vie de couple, dans la vie familiale.
Les enfants. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Je vous souhaite un beau voyage après Shabbat. Retour à la maison semaine prochaine. Retour à Jérusalem.
Dimanche prochain. Dans le chaudron.
Mais, c'est vous qui avez le mérite. Hein.
D'ailleurs, bon, on va pas se plaindre.
Non, nous, on est jaloux.
On va pas se plaindre, on va juste se calmer.
Ce serait pas mal. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Rav Gay est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Alors on se dit déjà bonne fête. Rag Purim Sameach, on a le droit.
Effectivement, on a quelques jours de Purim. Purim Sameach à vous et à toute la communauté.
Et aux auditeurs et à toute la communauté, absolument. Rav Gay, on va parler d'une phrase qu'on va beaucoup chanter et qui s'appelle Ora Vesimcha Vesasen Veikar. Ora Vesana. On la connaît tous. Elle est superbe. Mais il y a un petit mot à la fin. Qui dit Veikar. Et je vous avouer que je me suis toujours un petit peu demandé ce que ça voulait dire. Et en fait, Veikar, mais vous allez nous expliquer ça maintenant, c'est Veyakar. Veyakar, on dirait, et c'est cher, mais cher dans le sens, j'imagine, cher à mes yeux, quoi. Donc alors pourquoi est-ce qu'on est cher aux yeux de Hachem?
Voilà, alors justement, c'est un mot Vikar, donc c'est Vav, après les trois lettres qui forment donc le mot Yakar. Effectivement, c'est également aussi la phrase que Haman prononce lorsqu'il prend Mordechai sur le cheval du roi, à Melech Chafetz Bikaro, que le roi veut, à qui le roi veut donner de l'importance. Yakar, aujourd'hui en hébreu moderne, c'est Yakar, c'est lorsque ces choses sont chères, ça coûte beaucoup d'argent. Mais ça veut dire aussi quelque chose, évidemment, qui a de la valeur, évidemment. Et pourquoi ce mot a attiré notre attention? C'est parce que c'est exactement l'inverse d'un autre mot qui est Keri. Kouf, Resh, Yud, dans un sens, et Yakar dans l'autre sens. Ça dépend comment on met les lettres. Or, justement, ce Shabbat, c'est Shabbat Tetzaveh, mais c'est aussi Shabbat Zachor, où on va parler de Amalek. Et Amalek, justement, Asher Karecha Baderech. Littéralement, qui t'a rencontré sur la route. Donc, Amalek a attaqué Israël lorsqu'ils étaient sur la route vers Matan Torah, vers le mont Sinaï. Mais en fait, nos sages font remarquer que ce mot a plusieurs lectures possibles. Soit, évidemment, Mikré. Mikré, ça veut dire rencontre par hasard. Ça peut dire aussi, évidemment, Keri. Keri, ça veut dire une impureté nocturne, on en parlera, une impureté. Et il y a aussi la notion de kar qui veut dire refroidir. Amalek veut refroidir l'élan d'Israël, un élan spirituel, il amène vers le don de la Torah. Il veut les rendre impurs, et il veut également leur dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'effet du hasard. Et à l'inverse, Mordechai, il est l'homme Yakar, celui que Hachem, le roi, veut honorer. Donc le roi, c'est Achashverosh, mais en fin de compte, dans la Megillah, lorsqu'on dit Melech, le roi, en fait, on parle du Melech Malchem Lachim, le roi des rois, qui est aussi Akadosh Baruch Hu, qui veut honorer Mordechai, il veut qu'il soit Yakar. Et là, Yehudim, Haïtaora, Vesim Ravesan Vikar, effectivement, là encore, les juifs deviennent importants aux yeux de Achashverosh et de tout le royaume d'Achashverosh, suite au miracle extraordinaire de Pourim. Donc tout ça pour parler de ce mot qui en fait est un mot qui détient un petit secret. Le secret, c'est sa valeur numérique. Alors le valeur numérique du mot Yakar, c'est Yud 10, Kouf 100, Resh 200. Ça fait en tout 310. Et le chiffre 310 est un chiffre tout à fait particulier, peut-être pas très connu du grand public, mais pourtant il fait l'objet d'une Mishnah dans Pirkei Avot chapitre 5, tout à la fin, où c'est écrit « Lehanchil ohava yesh », c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit « J'ai 310 mondes qui sont prêts pour chaque juste. Tous les tzadikim auront droit à 310 mondes. » Yesh, c'est aussi valeur numérique 310. Lehanchil ohava yesh, c'est un héritage que je prépare à mes amis. Akadosh Baruch Hu, Dieu dit « J'ai mes amis, les tzadikim, les justes, qui auront droit à 310 mondes. » Alors on peut se demander pourquoi ce chiffre 310, qu'est-ce qu'il symbolise ? Eh bien, 310, c'est la moitié de 620. Et 620, c'est Keter, c'est-à-dire la couronne. C'est en fait le nombre de mitzvot que l'on peut compter en totalité 613 minatora, donc par la Torah écrite, et 7 mitzvot, 7 règles imposées par les Chachamim, dont Purim d'ailleurs, et qui se rajoutent aux 613 et qui donnent donc 620 pour obtenir un nom, un mot qui s'appelle le mot Keter, Keter, la couronne. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, lorsqu'on parle de couronne, c'est en fait le projet divin. Tout au départ, la couronne est posée sur le sommet de la tête. Elle représente donc la pensée, le projet. Et donc, le projet divin, c'est 620. Sauf qu'il demande à l'homme de faire un effort. Et lui dit, voilà, tu fais un pas vers moi, je fais un pas vers toi. Et donc, si on fait 310 pas, eh bien, Dieu a fait aussi 310 à notre rencontre. On obtient 620 parce que c'est un travail en commun. Dieu et l'homme sont associés. Sauf que l'homme doit faire un travail personnel, il ne peut pas attendre de Dieu de tout faire. Il faut que l'homme fasse lui-même un effort vers Dieu, une démarche vers Hachem, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu. Donc il doit remplir 310 mondes qui sont effectivement le résultat du travail qu'il a pu produire sur Terre. Donc d'un côté, il y a Yakar, Mordechai, et de l'autre côté, il y a Keri, le symbole d'Amalek, qui lui s'oppose et qui renie tout simplement ce principe. Il est l'antithèse, il est le moqueur, nous ça je l'appelle le lèpre, c'est-à-dire le moqueur, celui qui raille, qui se moque. Et justement, pendant le mois de Hadar, on rigole, c'est un moment de joie, mais aussi un moment de rire. Le rire, il peut être soit un rire du croyant, celui d'Abraham, lorsqu'il apprend que Hachem lui promet la naissance de son fils. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va rire, mais c'est un rire du croyant. Il dit « Ah là là, incroyable, Dieu !» On va vraiment rire ensemble parce qu'on va se moquer de toutes les prévisions des astrologues et des scientifiques qui nous disent « Mais aucune chance pour Sarai, qui est devenue Sarah entre-temps, pour avoir un enfant. Aucune chance pour Avraham, qui va devenir Avraham. Pour avoir un enfant, c'est impossible. » C'est simplement... Donc on rigole avec Hachem, on se moque en fait de ses statistiques, de ses prévisions, de ses... Et on dit « Voilà, on rigole parce qu'on sait, on a confiance. » Et on sait que Dieu est avec nous et qu'il se moque un peu de toutes ces statistiques et toutes ces projections. Et ça, c'est donc le rire du croyant. Puis finalement, il y a aussi l'autre rire, le rire de Sarah qui est un peu moqueur. Dieu lui reproche d'avoir ri d'une façon différente que celle d'Abraham. Et il aura un fils qui s'appellera Yitzhak, qui lui-même va rire aussi, sera celui qui rira. C'est celui, en fait, que l'on va mettre sur l'autel et qui va voir l'au-delà et qui va mourir d'après certains midrashim, puis renaître. Ce qu'on va dire qu'on appelle triatamekim, donc il va voir le monde dans différentes positions, le monde de là, puis après il va revenir parmi nous et il fera la bracha Baruch Ata Hashem Chayei Amekim, dit le Midrash, en se relevant de Akedat Yitzhak. Évidemment, il n'a pas été égorgé, certains disent qu'il serait mort en voyant les anges dans le ciel, mais c'est un avis, c'est pas l'avis de tous, mais de toute manière, ce qui est important, c'est qu'il a appris à rire, c'est-à-dire à voir le monde d'une autre façon avec son père Abraham, à s'offrir totalement à Dieu et finalement à se régénérer, revivre une nouvelle vie après Akedat Yitzhak. Il va devenir papa quelques temps après. Il va surtout d'abord se marier, puis après il va devenir le père de Yaakov et d'Esav. Tout ça pour nous bien faire remarquer que face à Keri, à cette notion de mikré, de hasard, d'impureté, il y a Yakar, les choses qui ont de la valeur. Et d'ailleurs, le mot Yakar, 310, c'est la même valeur que le mot Homer. Vous voyez, le Sfirat à Homer, le conte de l'Homer. L'Homer, c'est aussi 310. Or, justement, quel jour Aman a été pendu ? C'est le deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire le 16 Nissan, le jour où on apporte le Homer, le Korban à Homer. C'est une offrande à base de farine d'orge, qui était donc apportée sur l'autel, le Misbeach, dans le temple, et qui commence la Sfirat à Homer, le conte de l'Homer. Donc depuis cette offrande jusqu'à Shavuot. Homer, c'est l'occasion de rappeler une histoire de la Gemara qui nous dit que lorsque Haman reçoit l'ordre de chercher Mordechai pour le promener dans la ville et qu'il va et se dirige dans la yeshiva de Mordechai, il le voit en train de décrire dans le détail à ses élèves comment apporter le corban en mer, l'offrande du homer. Donc c'est pas un corban, c'est un mincha, c'est une offrande de farine qui s'appelle le homer. Donc c'est une quantité, c'est un volume, le homer, donc de farine d'orge. Je leur explique comment le faire parce qu'on est le deuxième jour de Pessah et qu'il doit leur raconter, expliquer comment le Beit Hamikdash au temple ont procédé pour apporter cette offrande. Et donc lorsque Aman s'approche et qu'il voit Mordechai en pleine description, plein d'enseignement, il dit cette phrase, il dit « Votre poignée de farine d'orge a été plus puissante que mes 10 000 pièces d'or que j'ai apportées ou d'argent pour pouvoir obtenir la destruction du peuple juif. » Et cette phrase très forte, elle nous rappelle finalement qu'il suffit tout simplement d'une détermination, d'une volonté et surtout d'une confiance. Lorsqu'on parle du Beit Hamikdash, lorsqu'on est en exil depuis 70 ans, c'est que tout simplement le peuple juif a bien compris que l'histoire, elle est faite de haut et de bas et que ce n'est pas parce qu'on est en exil qu'il faut s'y morfondre, mais au contraire préparer la reconstruction, la rédemption. C'est ce que fait Mordechai en enseignant à ses élèves. Alors qu'ils sont sous le coup d'une menace de destruction, d'effacement total, la solution finale versus Aman, eh bien, il leur dit, mais attention, le Beit Hamikdash va bientôt être construit, on va bientôt retourner en Israël, rien n'est perdu, allons-y, préparons-nous à. Lorsque Aman voit ce courage, cette détermination, cette envie, j'ai dit finalement, votre envie, votre détermination est beaucoup plus forte que la mienne. Moi, je veux absolument vous détruire, mais vous, vous voulez absolument retrouver votre terre, votre Dieu, votre temple. Et donc, devant cette détermination, je ne peux pas résister. Et c'est effectivement une parole prophétique. C'est le 16 Nissan qu'il va être pendu. Et deuxième jour donc, de Pessah, le jour où on apporte le Homer, valeur numérique 310. 310 comme le mot Yakar, qui veut dire quelque chose qui a de valeur, mais aussi à l'inverse, Kéri, c'est-à-dire notre façon à nous de nous débarrasser de celui qui a l'impureté de Kéri, qui a l'impureté de Mikré, l'impureté de Kriou, de celui qui veut nous mettre dans la froideur, dans la moquerie, d'une façon très désinvolte, voir Dieu et le monde d'une façon très détachée. Eh bien, nous disons non, le monde est dirigé par un créateur. Ce qui nous arrive n'est pas l'effet d'un hasard, mais c'est l'effet d'une providence divine. Et nous sommes là en train de croire tous les jours et attendre tous les jours cette rédemption qui va venir très bientôt, je l'espère, grâce à cette grande fête de Pourim, Bena Afarou, tout sera renversé. Ce qui paraît des mauvaises nouvelles deviendront des bonnes nouvelles. Et nous entendons, je l'espère, ce Pourim, des bruits venant d'Israël et nous annonçant, je l'espère, la fin des temps de la venue du Machiach.
Mais il y a aussi un troisième rire, je parle sous votre contrôle, c'est celui des gens qui voient Noé en train de construire l'arche. Alors vous avez, c'est encore une chute, parce que vous avez donc le très beau rire de Avraham, le rire de Sarah qu'on comprend, mais bon, elle dit, ah, franchement, enfin, d'après ce que j'ai entendu de ce que vous dites, mais il y a aussi les gens qui rient en voyant Noé qui fait, mais Noé dit, vous inquiétez pas, riez, vous verrez qui c'est qui a raison de croire.
Lui va bien, qu'il ira le dernier, dit-le. Il va bien, qu'il ira le dernier. Et en fait, le Rabbi Nachman de Breslav raconte une histoire, je termine là-dessus. Il raconte qu'il y avait un jour dans une maison, dans une pièce, un homme qui riait. Cette pièce contenait toutes les pièces de la maison et cet appartement contenait tous les appartements de cet immeuble. Et cet immeuble contenait tous les immeubles de la ville et cette ville contenait toutes les villes du monde entier. Et cet homme riait. Et en fait, à travers cette présentation, le Rabbi Nachman nous dit que l'homme, par son rire, par le rire bête évidemment, pas le rire moqueur, mais le rire du croyant est capable de s'élever et d'englober le monde entier, de s'élever au-dessus de toutes les contingences matérielles et d'être au-dessus de ce monde. Et c'est en fait ce rire-là qui est celui de Yitzhak. D'ailleurs, Yitzhak, je vous le rappelle, qui va être celui qui va défendre le peuple juif à la fin des temps devant la colère de Dieu. Et c'est lui qui va accepter de prendre une partie des sanctions qui sont prévues pour nous en disant « Palga alai, palga alach, moitié pour moi, moitié pour toi », en disant à Dieu « Tu prends la moitié, moi je prends la moitié et puis tu nous délivres ce peuple parce que ça suffit. Il faut que nous puissions rire ensemble et nous réjouir ensemble. »
Rav Gueh, je vous remercie. Shabbat shalom et de bonnes fêtes de Pourim.
Et toute la communauté. Shabbat shalom et pour ta mère.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat shalom et vous souhaiter des bonnes fêtes de Pourim, donc Rak Sameah. Je vous rappelle que c'est la semaine du Vada Rabbanim pour aider les plus pauvres, les plus démunis en Israël. Donc n'oubliez pas de faire votre don au 0800 106 135 0800 106 135 ou sur internet vadarabbanim.com. org, vaadarabanim.org, il y a un petit H après le D, vaadarabanim. Et puis on m'a demandé, je le fais avec grand plaisir, de signaler que le lundi 6 mars, vous aurez un grand dîner de gala au profit des petits anges de la vie pour les 25 ans de l'association Les Petits Anges de la Vie. Bon, bah oui, évidemment qu'on dit qu'on va le donner le numéro de téléphone et tout. Lundi 6 mars, donc, au Marriott Champs-Élysées, vente aux enchères, plateau d'artistes, buffet dînatoire. Un serfa vous sera délivré comme d'habitude. Voilà. Excellente soirée à tous. Shabbat shalom. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai.